Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue dans ce Vivante Église. Aujourd'hui, ce sont deux femmes, deux histoires, deux destins, deux chemins, Rebecca et Rachel. Toutes deux sont portées par une même promesse, traversées par le désir et marquées par la fécondité et qui dit quelque chose du cœur de Dieu. C'est dans cette émission Vivante Église, consacrée à Rebecca et Rachel, ces deux femmes dont la vie s'inscrit au cœur du dessein pour son peuple à travers elles. La Bible nous parle toujours de fidélité, la Bible nous parle de choix, mais surtout de la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Rebecca, épouse d'Isaac, et Rachel, épouse bien-aimée de Jacob, ont chacune marqué l'histoire d'Israël par leur rôle dans la transmission de l'Alliance. Leur parcours de femme révèle les défis de l'attente, les tensions familiales et la manière dont Dieu agit même au milieu des faiblesses humaines. Pour approfondir un peu ces récits riches d'enseignements dans l'Ancien Testament, je vous propose d'entendre sans plus tarder l'intervenant de ce Vivante Église aujourd'hui, frère Baptiste Sauvage, religieux carme, docteur en théologie et spécialiste de l'Ancien Testament. Bonjour frère Baptiste et bienvenue dans ce Vivante Église.
Bonjour.
Je vous avais reçu précédemment pour un Vivante Église avec deux autres personnages bibliques féminins, Agar et Sarah. Et c'est une continuité. Hein. On s'arrête quelque peu sur ces femmes qui ont marqué, au fond, l'histoire de l'Église, l'histoire de notre humanité. Il fallait ces femmes pour que s'inscrive l'histoire aussi du monde.
Exactement.
Alors, que nous disent toutes ces femmes, et en particulier, je vous propose d'introduire cette émission sur cette femme de Rebecca. Comment est-elle devenue, tout simplement, l'épouse d'Isaac? Et présentez-nous en introduction, Rebecca.
Oui, alors Rebecca est celle qui, on pourrait dire, intervient pour la première fois dans les Écritures alors que Abraham est âgé et voudrait justement marier son fils Isaac, non pas avec une fille des Cananéens, mais justement avec une fille de sa parenté, et donc il envoie son serviteur pour aller retourner dans le pays de ses pères dont il est parti, en Aram, et justement demander à ce que l'une de ses femmes puisse devenir l'épouse de son fils. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, Rebecca apparaît alors même que Abraham pense déjà à elle en quelque sorte. Et elle est cette femme qui reçoit la visite d'un serviteur, d'un envoyé, et qui justement, par sa générosité, va se manifester comme étant celle qui est destinée au fils d'Abraham, celle qui est destinée à Isaac. On pourrait dire qu'elle lance le balai de toutes ces femmes qui diront oui à un projet qui lui est annoncé et auquel elles consentent dans lequel elles consentent à entrer. Vous voyez ? Évidemment, pour sauter des siècles et des siècles, on pense évidemment à Marie qui reçoit la visite d'un messager qui est porteur d'une parole qui vient de Dieu et qui va dire oui pour devenir justement la mère du Messie. Mais la première, finalement, femme dont le consentement, en quelque sorte, est sollicité, c'est vraiment Rebecca, puisqu'il y a tout un presque une petite liturgie autour de ce oui qui va émerger dans le cœur de Rebecca. Elle est d'abord rencontrée par le serviteur d'Abraham auprès d'un puits. Et ce serviteur a dit à Dieu que si elle était celle qui se proposerait d'elle-même voyez, d'abreuver ses chameaux, ce serait cette femme qui a été destinée pour Isaac. Et c'est exactement ce que Rebecca va faire. Et là, on voit bien que c'est sa liberté de femme qui est sollicitée sans justement être forcée. Vous voyez, le serviteur a cette chasteté de n'en parler qu'à Dieu. Si cette femme va se marquer par la, être marquée du sceau de la générosité, eh bien, ce sera elle. Vous voyez, et elle, Rebecca, est spontanément généreuse et même plus que généreuse, puisqu'elle va en faire plus même que ce que le serviteur se sera proposé comme signe pour la reconnaître. Et donc, elle est cette femme qui, avant même que une proposition explicite lui ait été faite, elle est celle qui offre sa liberté pour le service de la vie. et c'est ce oui déjà dit à la vie, aux événements de la Providence, qui va éclore de plus en plus, puisque le serviteur d'Abraham se manifestera dans sa mission.
Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce que ça dit profondément de cette femme, Rebecca, dans ce personnage que vous décrivez, biblique, de cette générosité qui semble être presque naturelle?
Oui, il me semble qu'à travers cette générosité de Rebecca, on a vraiment une sorte de promotion de la femme dans les Écritures. C'est-à-dire que les Écritures nous font voir justement... ou mettent en avant certaines femmes qui luttent à temps et à contre-temps pour le service de la vie. Vous voyez, et rien ne peut les empêcher de faire jaillir la vie là où il est évident qu'elle jaillisse. Vous voyez, et donc, là, il ne s'agit pour l'instant que d'abreuver des chameaux. Mais plus tard, il y aura d'autres enjeux où Rebecca va se signaler avec cette même stratégie qu'on pourra essayer là aussi de juger moralement, mais ce n'est pas l'objet premier, me semble-t-il, des Écritures, qui est de nous faire voir une femme qui se met au service de la vie d'une famille et ensuite d'un peuple. Vous voyez, c'est la fameuse femme forte de la fin du livre des Proverbes au chapitre 31. Que tous les éditeurs pourraient relire, et justement qui nous montre une femme qui prend soin de sa maisonnée et qui fait tout pour qu'elle vive bien et qui justement suscite l'éloge en quelque sorte de tous parce que c'est cette femme qui craint le Seigneur et donc qui a cette attention au quotidien à la présence de Dieu et qui justement parce qu'elle a les yeux tournés vers le Seigneur, donc c'est ça, cette crainte du Seigneur, cette attention au quotidien tournée vers le haut, eh bien, elle aura justement le souci de la vie de tous. Et on commence à repérer ça dans le personnage de Rebecca. Alors ensuite, évidemment, il y a cette, justement cette révélation du serviteur qui dit qu'il a été envoyé par Abraham, etc. Cette reconnaissance mutuelle. Et ce qui sera très intéressant, c'est que justement, son frère Laban, avant que Rebecca ne parte aux côtés du serviteur d'Abraham, donc, et finalement avant que Rebecca ne refasse elle-même le chemin qu'Abraham a fait en premier, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'un exode, d'une sortie de sa parenté, vous voyez, l'homme quittera son père et sa mère, etc., pour s'attacher à sa femme, eh bien, là, c'est la femme, en quelque sorte, qui fait ce qu'Abraham a fait en premier, c'est-à-dire tout quitter pour marcher au pas de Dieu, jusque dans la terre de la promesse, et pour réaliser son dessein, etc. Donc, il faut mesurer quand même le geste que cette femme pose, et que beaucoup de femmes font aussi, hein, c'est-à-dire tout quitter pour entrer dans un projet dont elle reconnaît le sceau divin.
Alors, pour entrer dans ce projet, elle a pu tout quitter, oui. Ce qui signifie aussi qu'elle était à l'écoute.
Elle était à l'écoute.
Pour un tel projet.
Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que on connaîtra Laban par la suite, puisqu'il accueillera les fils de Rebecca, le fils de Rebecca, Jacob, avec des traits qui seront pour le moins suspects, mais il faudrait revenir dessus. Mais là, ce que je soulignerais très volontiers quand même dans le personnage de Laban, c'est qu'il sollicite le consentement de sa sœur avant de partir. « Veux-tu y aller ?» Et c'est un très beau passage qui vaut le coup justement d'être... d'être rappelé. C'est-à-dire, donc, il fait appeler Rebecca et lui dit « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Je veux bien ». Alors, ils laissèrent partir leur sœur Rebecca, donc l'avant avec sa parenté, avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Notre sœur, ô toi, devient des milliers de myriades, que ta postérité conquière la porte de ses ennemis. » Parole énigmatique, mais dans laquelle je retiens, d'une part, la sollicitation du consentement d'une femme, ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes, dans les Écritures. Et donc là aussi, on a vraiment une attitude masculine que la Bible promeut aussi, vous voyez, parce que c'est celle même de Dieu. Avant d'intervenir, il sollicite le consentement et la liberté d'une femme. Et une fois qu'elle a dit oui, eh bien, il y a cette parole de l'homme qui bénit et qui reconnaît ce qu'on disait déjà de Sarah et d'Agar, c'est-à-dire qui reconnaît qu'à travers ce « oui », il n'y a pas qu'un petit enjeu familial ou individuel, mais c'est toute une postérité qui est impliquée. Donc, quand une femme dit « oui », sous le regard de Dieu, eh bien, l'enjeu, on pourrait dire, est maximal pour la vie.
Si vous êtes écouté, vous êtes peut-être écouté par quelques femmes maintenant dans ce Vivante Église et cette émission du jour. Qu'est-ce que vous aimeriez et peut-être lancer, peut-être redire à toutes ces femmes qui écoutent ce Vivante Église sur ces beaux personnages, en particulier Rebecca que nous évoquons actuellement avec vous.
Il me semble, finalement, c'est le c'est ça que j'aime bien avec les Écritures, c'est-à-dire que la chose à dire est d'une banalité parce qu'on l'entend tout le temps, c'est-à-dire vos petits oui sont extrêmement importants pour la vie de l'Église, mais en fait cette banalité, quand on la découvre déjà prise en charge par les Écritures et avec une telle maestria, on pourrait dire, hein, parce que c'est toute l'histoire du salut qui fait dépendre de son avancée, de ses petits oui de femme. Donc finalement, c'est la même banalité que je voudrais redire, mais avec toute cette densité de l'histoire qui nous précède, c'est-à-dire que oui, effectivement, les petits oui du quotidien obscur, on peut s'imaginer Rebecca avant de partir à la suite de cet homme. Bon, il y avait suffisamment de signes pour reconnaître la trace de Dieu, mais suffisamment d'obscurité aussi pour faire de ce oui un oui héroïque, vous voyez, comme le oui de Marie à Nazareth. Donc il y a toujours une incertitude dans ces oui que les femmes bibliques disent, mais la certitude d'une fécondité, d'une réalisation qui peut-être n'était pas celle à laquelle elles auraient pu aspirer premièrement, mais qui est en fait la réalisation des désirs les plus profonds du cœur de ces femmes.
Alors vous qui connaissez bien la Bible, l'Ancien Testament, qui connaissez bien aussi toutes ces femmes bibliques, que peuvent-elles dire aux femmes d'aujourd'hui, telles que le personnage aussi de Rebecca ? Pour ce monde d'aujourd'hui, et puis cette détresse, il y a des cris, il y a des souffrances, il y a parfois des infidélités, il y a parfois des oui qui ne se disent plus ou qui ne se prononcent plus. Vous parliez de consentement, de fécondité. Quand la femme se perd aujourd'hui dans notre humanité, comment retrouver un peu tous ces repères que ces femmes avaient, tels que Rebecca ?
Oui, ce que plutôt que parler, je laisserais plutôt parler les Écritures. Et ce qu'elles nous font voir, en tout cas chez les femmes en situation de détresse, c'est qu'il y a toujours une marge de manœuvre pour la vie. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment des servantes de la vie. Et il y a toujours un petit espace. Vous voyez, donc tout peut être absolument détruit. On peut être dans le chaos total. Mais il y a toujours un petit espace pour faire surgir la vie. Et c'est cet espace-là qu'il faut absolument emprunter pour faire avancer on pourrait dire le dessein de Dieu. Et c'est là on peut imaginer, par exemple, reprenons l'image de la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire que les armées égyptiennes sont derrière nous, il y a un passage qui est fermé, mais les eaux vont s'ouvrir en quelque sorte lorsque Moïse élève la main. Et ben, c'est ce passage resserré que souvent les femmes empruntent en premier pour justement faire surgir la vie. Donc, dans la petite marge de manœuvre qui est celle des femmes bibliques, souvent, mais pas toutes, hein, il y en a certaines qui refusent On peut penser à certaines figures plus obscures, comme Jézabel ou d'autres personnages. C'est pas parce que on est femme qu'on est forcément à l'écoute de Dieu. C'est pas un acquis, mais c'est quelque chose, un don à recevoir. Mais souvent, justement, dans ces femmes de Dieu que les Écritures nous présentent, elles ont des défauts, c'est évident. Mais toujours cette attention au petit peu qui dépendent d'elle pour faire surgir la vie dans une situation marquée par la mort. Voilà. Et Rebecca, on le verra aussi dans la suite de son histoire.
Rebecca, c'est aussi Jacob, hein,
ben,
un de ses fils, avec cet épisode aussi de où elle va jouer.
Exactement.
Voilà, de la bénédiction.
Oui.
Voilà, un épisode que vous pouvez être très vite relaté.
Oui.
Qui est important.
Oui, exactement. Alors donc on est juste après au chapitre 25 et
très ensuite rapidement
26.
Parce que le temps nous est malheureusement compté. Et puis j'invite bien sûr ceux et celles qui écoutent ce Vivante Église aujourd'hui à relire, à se replonger dans ces beaux textes aussi bibliques.
Exactement. Donc, on est au chapitre 25, quand Rebecca donne naissance à ses deux enfants. 26, un épisode intermédiaire, mais très important aussi. Et au chapitre 27, justement, Rebecca va aider, en quelque sorte, son fils Jacob à recevoir la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Alors là aussi, on pourrait être tenté de qualifier moralement ce mensonge et peut-être...
Un peu cette ruse.
Cette ruse, oui. Exactement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, Rebecca est elle aussi une femme qui a été marquée par l'épreuve de la stérilité et qui, là aussi, ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire qui a vu son mari intervenir auprès de Dieu en sa faveur. Donc, lorsque son mari intercède, un petit peu comme lorsqu'Abraham avait intercédé pour Abimélec un petit peu plus tôt, c'est au moment où Abraham intercède que Sarah va pouvoir être visitée par Dieu et donner naissance à un fils. Et c'est au moment où son mari intercède que Rebecca va donner naissance à ses enfants. Et dans cette conception, une parole sera donnée. Elle va consulter le Seigneur, Rebecca, et elle entendra cette parole qui lui dit « Il y a deux nations en ton sein, deux peuples issus de toi se sépareront, un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. » Et donc, Rebecca entend ce que Dieu dit sur ses enfants. Et alors, la fin ne justifie pas les moyens, c'est pas parce qu'elle sait que le cadet sera béni par Dieu que il lui est permis de ruser auprès de son mari. Mais n'empêche que là aussi, on voit un petit peu ce même mouvement de fond, quand bien même il serait imparfait, c'est-à-dire une femme qui sait ce que Dieu veut, qui entend une parole qui paradoxale, qui est destinée justement aux plus petits. Et qui va utiliser les moyens imparfaits qui sont les siens sur le moment pour se mettre au service de cette parole. Vous voyez ? Donc, on n'est pas encore parvenu au Nouveau Testament, à l'accomplissement parfait en mari, vous voyez ? Mais on a déjà une ligne qui est tracée d'une femme qui écoute Dieu et qui se met au service du plus petit.
Alors, nous, on se met au service de cette émission aujourd'hui. C'est le temps aussi d'une pause musicale. Et puis, je vous invite, on ne peut pas tout dire, on survole. Hein.
Bien sûr,
vous le savez. Relisez ces passages bibliques, chers auditeurs, sur ce beau personnage de Rebecca, femme d'Isaac. Et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, juste après, frère Baptiste, sur cette autre femme. Voilà, il y a plein de belles femmes, personnages bibliques qui montrent un petit peu ce chemin,
oui.
Voilà, ce chemin
Rachel,
aussi
oui.
D'écoute, d'obéissance au fond, oui. De servante. Et vous avez joliment dit au cours de cette émission, servante de la vie. C'est bien peut-être au fond la vocation de la femme encore aujourd'hui. Être au service de la vie du début à sa fin. Je vous propose de retrouver dans quelques minutes et on va parler de Rachel, qui était la femme de Jacob. À tout à l'heure.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des camps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église du jour, avec vous, frère Baptiste Carme, religieux, spécialiste de l'Ancien Testament, on évoquait dans cette première partie d'émission de Rebecca, la femme de Jacob, et dans cette deuxième partie, je vous propose, on parle de femmes de l'Ancien Testament, ces femmes qui ont marqué au fond, hein, l'histoire de l'Église, hein, et qui marque l'histoire aussi du monde et de notre humanité. On va parler de Rachel. Rachel, femme de Jacob. Il y a beaucoup d'histoires, hein, voilà, merveilleuses. Vous avez parlé de ses servantes au service de la vie. La femme est faite pour être au fond et a pour vocation de donner la vie, de fécondité. On parle de fécondité et on parle aussi d'intervention de Dieu, de miracle de Dieu, d'irruption de Dieu dans la vie de ces nombreuses femmes. Alors que nous dit Rachel et quelle est un peu cette histoire de Rachel ? d'hier et d'aujourd'hui.
Oui, bah oui, oui. Alors Rachel est la fille de Laban. On avait parlé justement de Laban qui laisse partir en quelque sorte Rebecca, qui demande son consentement. Donc on avait vu que Laban est celui qui était capable de s'émerveiller ou de reconnaître aussi devant cette femme ses destinées, puisqu'il la bénit, il bénit sa sœur, et en annonçant qu'elle deviendra milliers de myriades, etc., et que sa postérité aura une influence, enfin elle va conquérir la porte de ses ennemis. Phrase mystérieuse. Et donc, Laban est celui qui a reconnu, en quelque sorte, la grandeur de sa sœur, qui a posé ses gestes fondamentaux. Mais il est aussi le père de Léa et de Rachel, qui accueillera justement Jacob. Alors, on avait vu Jacob, qui est le fils de Rebecca. Il faut s'y retrouver.
Hein. Il faut s'y retrouver, donc on s'y retrouve. Donc.
Jacob est le fils de Rebecca, qui justement a reçu la bénédiction de son père à la place de son frère aîné, et qui justement aussi, grâce à l'aide de sa mère, va fuir la colère de son frère, qui veut le mettre à mort dans un premier temps. Là aussi, il y aura un épisode de réconciliation entre les deux. Imparfaite, certes, peut-être, mais réconciliation quand même. Mais avant, et ça rejoint ce qu'on disait aussi de Sarah et d'Agar, une certaine mise à distance. Oui, donc, elle peut être nécessaire quand la situation devient trop conflictuelle. Donc, Jacob a fui son frère. C'est là d'ailleurs qu'il s'est arrêté sur son chemin à Bethel, où les cieux se sont comme ouverts pour lui. Cette fameuse échelle, on l'a traduit comme ça, il faudrait d'autres termes, mais c'est pas grave, où les anges montent et descendent au-dessus de lui. Voilà. Et donc, il promet en tout cas aussi, il fait ce vœu au Seigneur justement d'être. S'il revient de la colère de son frère, il dit « Si Dieu est avec moi, chapitre 28, verset 20, et me garde dans la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. » Et donc, et cette pierre sera que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et donc, il part, il fuit la colère de son frère, il rencontre les anges, etc. Donc, il y a toute une préparation de Jacob, il fait ce vœu où il remet sa vie en quelque sorte entre les mains de Dieu. Et patatrac, on pourrait dire, ça aussi, c'est pas anodin, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Rachel. Dans des conditions assez semblables à celles du serviteur d'Abraham, donc le serviteur de son grand-père, du grand-père de Jacob, qui est Abraham. Abraham qui avait envoyé son serviteur pour chercher une femme, Rebecca, la mère de Jacob, à Isaac. Et on voit que justement, Jacob, qui est donc le fils de Rebecca, marche sur les pas de ce serviteur qui avait été envoyé dans la terre de ses pères pour trouver une femme, sauf que lui ne le sait pas encore qu'il va trouver cette femme. Ça. Il ne sait pas, peut-être probablement qu'il l'espère, probablement que Rebecca aussi l'espère. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est juste là-dessus que je m'arrête, c'est que l'irruption, même si le mot est trop fort, mais il y a un peu de ça quand même, c'est-à-dire l'irruption de Rachel dans la vie de Jacob n'intervient pas à n'importe quel moment, mais elle intervient au moment où Jacob a fui, donc il a été en détresse, et en même temps il a rencontré Dieu et ses anges, donc il a été comme préparé. Et il y a une sorte de situation de détresse, il a reçu sa bénédiction, en même temps il fuit, il remet sa vie entre les mains de Dieu, après avoir vu des anges, et on pourrait dire « ça y est ». Son cœur est prêt pour accueillir une femme, vous voyez, qui lui vient de Dieu.
Donc, pour accueillir et pour la rencontre.
Pour la rencontrer.
Oui, parce que pour une rencontre, il faut parfois la préparation d'un cœur.
Exactement. Et ça, c'est, on a dit une parole pour les femmes tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi une parole pour les hommes. C'est-à-dire, pour rencontrer une femme comme Dieu le veut, voyez, un peu dans les conditions qui étaient celles d'Adam, jamais possiblement retrouvées parce qu'on reste marqué par cette blessure, mais quand même pour rencontrer une femme comme Dieu le veut. Vous voyez, on voit bien déjà Adam dans le jardin d'Éden a été comme préparé. Il a dû commencer par donner des noms à des animaux sous le regard de Dieu. Donc on voit bien qu'il y a, il y a toute une préparation. Il entre dans un sommeil mystérieux et c'est de son côté que Dieu bâtit une femme. Donc il y a toute une préparation de l'homme où il est comme même presque blessé et il doit faire une certaine expérience de Dieu. Et bien pour que Jacob puisse rencontrer Rachel, il y a aussi cette préparation.
Et dans cette préparation, on perçoit aussi, au fond, cette infinie délicatesse et tendresse de Dieu.
Oui, qui, me semble-t-il, veut communiquer ça à l'homme. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu violent dans la manière qu'il a eu de... on va dire de... Ou en tout cas, il a été confronté à une certaine violence dans la colère de son frère, un peu légitime d'avoir perdu la bénédiction.
Ce qui peut se comprendre, voilà, tout humain, à fait. Oui,
donc il est un peu dans ce monde masculin marqué par la confrontation et masculin blessé par le péché, parce que le monde masculin selon le cœur de Dieu, c'est normalement est marqué par l'amitié. On peut se souvenir par exemple de celle entre David et Jonathan. Donc il y a une autre manière pour les hommes de vivre ensemble qui est l'amitié. Mais justement, cet homme marqué par tout un tas de blessures, eh bien, il est préparé. Et il est préparé par Dieu pour rencontrer cette femme. Et je dirais bien volontiers que c'est... On ne sait pas, on ne connaît pas le cœur de Dieu et le cœur de Jacob, mais c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Rachel sera si importante aux yeux de Jacob. C'est-à-dire qu'elle est celle que Dieu lui a préparée et qu'il a préparée à rencontrer.
Donc, Dieu préparait ces deux cœurs, hein, le cœur de Rachel.
Exactement.
Et le cœur, aimait-il plus Rachel que Léa?
C'est ce que la Bible nous dit.
La pauvre Léa.
C'est ça.
On peut être plein de compassion pour Léa.
Exactement. La suite de l'histoire nous montre que.
C'est rude.
Mais oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, en deux mots, Laban prépare le mariage de Jacob et de Léa, va mettre Léa dans le lit de Jacob durant la nuit nuptiale, disant que c'est l'aînée qui normalement est offerte en premier. On pourrait dire quand même que Laban aurait pu le prévenir avant. Et donc Jacob se retrouve justement en premier marié à son insu avec l'aînée. Mais on pourrait se dire aussi, à travers cette ruse qu'il subit, il y a quelque chose aussi de la ruse qu'il a lui-même, à laquelle il a lui-même consenti,
dans le passé,
qui lui revient. Qui lui revient. Donc c'est comme aussi, comme si Dieu
corriger son fils.
C'est ça. C'est-à-dire que les erreurs du passé ne sont, comment dire, elles, voilà, avec Dieu on est pardonné, etc. Mais il y a tout un chemin aussi de reconstruction. Voilà. Et ce qu'il a fait subir à d'autres, lui-même va le vivre aussi, pas du tout par une sorte de loi du talion de vengeance, mais plus comme une sorte de reconstruction de Jacob, qui sera aussi l'occasion pour Jacob de montrer son amour pour Rachel, celle qu'il aime, puisqu'il va servir, il va servir 14 ans, c'est-à-dire deux fois 7 ans Laban pour obtenir la main de cette femme. Oui.
Et comment Rachel traverse un petit peu cette période aussi, qui sera aussi pour elle compliquée.
Bien sûr,
imagine bien.
Oui, hein, surtout que...
Il faut attendre, il faut pardonner.
Oui, et puis ça a l'air d'être une sorte de loi biblique, mais les femmes que Dieu choisit aussi, souvent, vont passer par l'épreuve, peut-être parce que, justement, si elles sont servantes de la vie, elles restent aux côtés de ceux qui souffrent, et Dieu veut leur faire expérimenter ce que peut-être aussi la douleur des autres. Je balbutie sur ces épreuves que les femmes ont à vivre dans les Écritures, mais donc Rachel va être marquée, elle aussi, par la stérilité, comme l'a été Sarah d'abord, ou Sarai à l'époque, et puis Rebecca. Oui. Et donc,
elles ont des points communs.
Ce
point commun, c'est la stérilité.
C'est une stérilité, mais qui est visitée par Dieu pour être ouverte à une autre fécondité. Et en particulier, donc, celle de Rachel sera de donner naissance à Joseph, voilà, un des fils chéris de Jacob, dont on connaîtra l'histoire par la suite, qui va être le rédempteur de ses frères. et puis donner naissance à Benjamin, qu'elle appelle Ben Oni, fils de ma douleur, mais qui lui aussi aura une destinée toute particulière. Et elle va donner naissance à ce fils dans des circonstances tragiques, puisqu'elle en mourra. Et en même temps, Rachel restera, on pourrait dire, dans les annales bibliques, comme celle qui est aux côtés des mères qui souffrent. Vous voyez, Jérémie nous fait entendre les pleurs de Rachel. Matthieu nous les rappelle, ces pleurs de Rachel, après l'épisode du massacre des innocents. Ouais. Et en fait, Rachel est cette femme qui pleure aux côtés des autres femmes. Vous voyez, on peut même penser que quand Jésus dit aux filles de Jérusalem de pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants, c'est un peu la figure de Rachel qui est rappelée, c'est-à-dire pleurer non pas comme une parole de condamnation pour ces femmes, mais plutôt seulement comme une invitation à ce que doit être aussi parfois la mission de certaines femmes à la suite de Rachel, c'est-à-dire entrer dans cette grande compassion de Dieu pour ceux qui vont souffrir, et peut-être aussi pleurer devant Dieu pour obtenir le salut. Voilà, donc Rachel est cette femme qui va passer par des épreuves, mais dont les épreuves seront fécondes comme signe d'espérance pour tout le peuple de Dieu, jusque dans le Nouveau Testament.
Quel pourrait être un petit peu, le message de Rachel pour les femmes d'aujourd'hui, dans ces temps?
Ben c'est finalement peut-être celui qui est deviné par les chrétiens quand ils contemplent Marie au pied de la croix. C'est-à-dire que au cœur même de la détresse, quand il n'y a plus que les larmes pour parler, vous voyez, donc Marie ne dit rien au pied de la croix, hein, mais elle reste debout. Quand il n'y a plus que les larmes pour parler, et bien justement, ces larmes deviennent on pourrait dire l'instrument. L'arme, c'est même un jeu de mots, c'est l'arme avec un L apostrophe, la plus efficace sur le cœur de Dieu pour faire surgir le salut.
Donc une arme puissante d'intercession auprès de Dieu.
Une arme d'espérance. Ouais, c'est-à-dire que quand il n'y a plus que les larmes...
Une arme de vie.
Finalement, exactement, il n'y a plus que cette... on voit bien d'ailleurs, quand Jacob rencontre Rachel pour la première fois, il pleure. Et donc, cette femme, elle est marquée par le signe des pleurs, mais elle nous fait comprendre à quel point, finalement, ces pleurs sont précieux aux yeux de Dieu. C'est pas pour rien si le message le plus ultime, en quelque sorte, de l'intervention de Dieu pour son peuple, dans l'Apocalypse, reprenant une prophétie d'Isaïe, c'est de sécher les larmes des yeux. C'est-à-dire que c'est comme si les larmes, on pourrait dire cette goutte d'eau toute petite qui jaillit de cet endroit tout petit de la face d'un homme, et ce lieu que Dieu regarde en premier pour pouvoir les consoler. Vous voyez, donc le regard de Dieu est comme fixé sur la capacité qu'ont certains à pleurer devant lui, parce que c'est de ces sources là que jaillit le salut. Voilà. Donc quelle est la réponse de Dieu face au mal? Probablement pas théorique, on n'en fera pas une métaphysique pour essayer de justifier le mystère du mal. Et devant le massacre des innocents, que dire d'autre sinon de pleurer avec Rachel, avec Jésus qui pleure sur Jérusalem, et justement d'entrer dans ce grand mouvement dont l'ultime réponse, qui suscite une espérance folle, et dont l'ultime réponse sera la consolation de Dieu.
Les cœurs ont besoin d'être consolés aujourd'hui, frère Baptiste. On parle de ces larmes qui peuvent parfois couler. Ces larmes ont besoin parfois d'être et souvent consolées,
oui,
parce qu'il y a détresse, il y a souffrance, il y a des séparations, il y a des deuils, il y a des morts. Il y a beaucoup de morts tout autour de nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de guerres tout autour de nous. Et dans le monde, toutes ces femmes, et en particulier dans cette émission de Vivante Église, aujourd'hui, on est revenu sur Rebecca. Et puis à l'instant, vous nous avez parlé de Rachel, et vous nous avez rappelé aussi ces larmes de Rachel.
Oui.
Ces larmes qui deviennent au fond intercession. Prière,
des sources de vie.
Et des sources de vie. Oui. Donc, on parle de ces femmes et on en revient toujours à cette puissance de vie, des servantes.
Servantes de la vie.
Des servantes de la vie. Est-ce que ce n'est pas l'un des enjeux et des grands combats aujourd'hui de devenir des hommes, de devenir femmes, mais au service de la vie?
Exactement. On voit bien la tentation qui serait le revers de cette...
Ça sera peut-être aussi amener la conclusion aussi à cette émission.
La tentation serait de mettre la main sur cette vie, de vouloir maîtriser.
Maîtriser ce qu'on fait très bien aujourd'hui,
cette vie
hein,
de tout maîtriser. Qui nous est donnée. Et même on peut penser à, oui, c'est ça, cette maîtrise que certaines femmes bibliques voudraient avoir sur la vie qui leur est confiée. Par exemple, Ève va dire qu'elle a acquis un fils. Donc, est-ce qu'il faut l'entendre ? Elle a mis la main sur son fils Caïn ? Peut-être, on ne sait pas. C'est une parole qui est mystérieuse. Mais ce qui est sûr, c'est justement la beauté des femmes, justement, vient et comme manifestée, justement, quand elles se mettent au service de la vie qui leur est confiée. Et je dirais particulièrement celle de Rachel, c'est que lorsque ce service devient presque impossible par la puissance de mort qui semble tellement puissante pour l'empêcher, Rachel est celle qui, justement, dans un ultime geste, autorise en quelque sorte à pleurer. Et elle vient comme ouvrir les sources des larmes qu'on pouvait avoir cadenassées dans le tréfonds de notre âme. Elle vient les ouvrir pour qu'on, on pourrait dire, cette dernière parole de vie que l'on peut dire quand tout semble s'effondrer puisse être exprimée, c'est-à-dire celle des larmes et celle de pleurer devant Dieu en attendant qu'un salut inespéré puisse germer, parce que la mort ne peut pas triompher de la vie. C'est finalement cette conviction-là que les femmes bibliques portent, c'est que la mort ne peut pas triompher de la vie. C'est quand bien même la raison, le monde, tous les arguments du monde, c'est-à-dire qu'on met une pierre sur le tombeau de Jésus, on essaye de le cadenasser, etc. Mais il y a quelque chose de plus fort qui fait que des femmes continuent quand même à aller au tombeau, parce que la mort ne peut pas triompher de la vie.
Et la mort n'aura pas le dernier mot.
Exactement.
Tout est dit. Donc ces femmes s'inscrivent dans l'histoire de notre humanité et de notre monde aujourd'hui.
Exactement. Exactement. Et qu'elles continuent à nous dire cela, c'est ce dont peut-être les hommes ont besoin.
Et c'est peut-être ce dont le monde a besoin aussi.
Exactement. Voilà. Exactement.
Donc merci à toutes ces femmes qui, au fond, nous ont précédées.
Oui.
C'est l'histoire un peu qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, au-delà de l'histoire de l'Église, l'histoire des hommes.
Oui, exactement.
Et je vous remercie. Malheureusement, le temps nous est compté pour cette émission du jour. Frère Baptiste Sauvage, je rappelle que vous êtes religieux carme, docteur en théologie, spécialiste de l'Ancien Testament et que vous nous avez accompagné dans cette émission du jour. Et je vous invite, chers auditeurs, à lire ou relire ou découvrir et méditer à nouveau ces femmes de la Bible qui peuvent encore s'inscrire et marquer les cœurs. Merci.
Merci.